Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, low-technicisation et numérique avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cours émission de la formation Upload, low-technicisation et numérique. Vous écoutez la radiographie de 94.9 FM, il est 14h et nous sommes ensemble avec Stéphane Croza pour une heure afin de vous parler de low-technicisation. Toujours bonjour Stéphane.
Bonjour Audrey, bonjour à toutes et tous.
Alors pour rappel, ce cours émission à la radio est animé dans le cadre d'une formation en ligne qui dure 7 semaines et qui est intitulée « Low technicisation et numérique », alors on dit plus rapidement « LONUM ». Et dans cette formation, on aborde avec une vingtaine de participants et de participantes des concepts, des méthodes, des outils pour, de façon générale, repenser notre façon de concevoir des outils numériques afin de les rendre plus soutenables d'une part, c'est-à-dire de réduire l'impact environnemental du numérique en général, et puis aussi plus conviviaux, c'est-à-dire c'est une démarche pour essayer de rendre les outils numériques, de mieux comprendre ces outils-là, et puis de nous rendre moins dépendants de ces outils dans une certaine mesure. Alors, cette émission que l'on fait actuellement est aussi diffusée en direct sur Peertube. Peertube, c'est un média social alternatif libre qui permet de partager des vidéos et puis des vidéos en direct. Donc on est sur l'instance de l'association Picasoft, accessible à l'adresse tube.picasoft.net. Et donc vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires et dans le chat de ce live-là, ainsi que sur Mastodon, un autre média social alternatif, en utilisant le tag LONUM. Et puis voilà, on essaiera de répondre à vos questions en direct ou bien juste après. Voilà, donc rejoignez-nous sur tube.picasoft.net sur la chaîne Upload LONUM. Et puis vous retrouverez aussi sur cette chaîne-là toutes les rediffusions des émissions. Alors au programme de cette heure-ci, on va faire un rappel sur ce que l'on a vu la semaine dernière, puisqu'on a fait une introduction à la low technicisation. On a parlé d'invention, d'innovation, on va repasser par là. On passera aussi sur ce que serait un ou une ingénieur en low technicisation. On est dans les studios de graphite à l'UTC, donc on est dans une école d'ingénieurs, on va parler de tout cela. On va aborder les méthodes agiles pour justement rediriger l'innovation, l'invention, et puis on parlera plus précisément d'une méthodologie que l'on va appliquer à la low technicisation et d'outils donc tels que la veille, la réalisation d'un état de l'art, l'idéation, le maquettage, l'évaluation réflexive. On va détailler tout ce que ces termes-là veulent dire dans le cadre de projets de low technicisation. Voilà. Et on utilisera quelques exemples de projets déjà réalisés. Alors on démarre avec une première partie, donc on va rappeler les termes, les concepts principaux de la low technicisation. Et Stéphane, lorsque tu avais commencé donc l'émission de la semaine dernière, tu avais commencé par dire que la low technicisation se posait en opposition, en alternative au techno-solutionnisme. C'est un terme important, est-ce que tu veux bien reprendre à partir de là ?
Oui, en effet. Alors le techno-solutionnisme, on l'avait défini selon plusieurs angles, mais on peut dire que c'est une approche qui est essentiellement centrée sur l'optimisation, qui correspond à, par exemple, qui s'illustre par un scénario de l'ADEME que l'on avait montré, que l'on avait décrit, qui s'appelait le pari réparateur, que l'on appelle le scénario 4 de l'ADEME, c'est-à-dire que l'idée générale du techno-solutionnisme en face des problèmes environnementaux que l'on rencontre, eh bien, c'est de continuer d'investir dans le progrès technique et la croissance économique, de les accélérer même, en espérant en quelque sorte que cela va permettre de trouver les solutions aux problèmes que l'on rencontre. Alors, la notion de pari, c'est que, un, c'est pas sûr, et deux, là où ça commence à être assez largement discuté comme approche, eh bien, c'est que on espère qu'en augmentant les ingrédients, on va résoudre le problème, alors que c'est déjà un peu ces ingrédients qui nous y ont conduit. Alors, comme tu le disais, donc la low-technicisation s'inscrit en contrepoint du techno-solutionnisme, et donc l'idée est plutôt d'essayer un autre chemin. Je reviens pas dessus, mais donc ça correspondait à un scénario S1 de l'ADEME, et donc de mettre en avant des logiques de sobriété, de ralentissement, de décroissance, et on avait parlé également de médiété au sens d'Aristote.
Au sens d'Aristote, d'accord. Alors c'est vrai que toute la réflexion de la low technicisation part de ces deux philosophies-là. Et alors on parle de l'hubris, l'hubris qui va avec la croissance, le progrès, le fait de vouloir toujours continuer à inventer de nouveaux outils, de d'amplifier notre maîtrise de la nature, l'hubris, la croissance, etc. À tout cela, on oppose donc une idée de médiété, tu le dis, d'Aristote. Donc ça, c'est la soutenabilité, la convivialité dont on parle beaucoup. Beaucoup dans la low technicisation, ça s'appuie sur ce concept-là. Est-ce que tu peux bien détailler ces deux axes de soutenabilité, de convivialité, et puis leur lien avec ce concept de médiété ?
Alors, on va pas trop les détailler, hein, on en a parlé pas mal la semaine dernière, mais l'idée, hein, c'est donc l'hubris, c'est bien, c'est cette logique de démesure qui s'illustre très bien, donc notamment par la croissance exponentielle. Et donc, l'enjeu, eh bien, c'est d'essayer de lui opposer une logique de médiété, c'est-à-dire de tenter de contrôler, eh bien, de réfléchir à nos besoins, à nos tendances, et donc d'apporter un certain contrôle. Donc, pour ça, effectivement, comme tu l'as dit, on va jouer sur deux axes. D'une part, donc, la soutenabilité, c'est-à-dire essayer de contrôler, réduire nos impacts environnementaux, climat, biodiversité, etc. Et puis une logique de convivialité, donc on va essayer également de réfléchir aux impacts humains, par exemple à travers la problématique d'autonomie vis-à-vis de la technique, ou encore, on en parle pas mal dans le domaine du numérique, les enjeux d'exploitation d'autres humains, par exemple dans d'autres pays.
Et donc, pour faire cela, donc sur ces deux axes, soutenabilité et convivialité, tu proposes donc d'aborder cette biotechnicisation à partir de trois leviers, d'avoir trois leviers d'action différents pour voilà, agir vraiment sur la technicisation.
Oui, ces trois leviers, donc, c'est optimisation, imagination, alerte. Alors, optimisation, on l'a dit, c'est d'emblée dans le domaine de la technique, c'est ce qui fonctionne bien, on va dire, aujourd'hui, est accepté par la communauté technique et scientifique, donc des ingénieurs et des chercheurs. Alors, l'idée, c'est évidemment de continuer à chercher à optimiser, mais peut-être de rediriger ce pourquoi on optimise, que ce soit pas fondamentalement orienté vers, typiquement, l'augmentation d'un volume de vente ou de marge, mais plutôt, comme on vient de le dire, de convivialité. De soutenabilité. Deuxième axe, logique d'imagination, agir sur les modes de vie, réfléchir et accepter une modification des modes de vie. Et puis, troisième axe, alerter, donc voir comment les objets que l'on construit peuvent, par exemple, faire exemple pour montrer d'autres façons, par exemple, de se déplacer, de se nourrir, de s'habiller, etc., qui soient évidemment acceptables humainement. Et encore une fois, qu'ils puissent jouer positivement sur les axes convivialité, soutenabilité.
Premièrement, si j'arrête de croire qu'une autre personne s'en chargera, je peux influer sur le petit bout de monde qui se trouve devant moi. Deuxièmement, si je prends la charge d'un sujet, je sais combien c'est énergivore et j'ai plus de compassion avec les personnes qui ont pris à leur charge d'autres sujets, même quand elles font pas comme je voudrais. Troisièmement, si je trouve les personnes avec qui je suis à l'aise pour faire des trucs, on peut agrandir l'horizon du bout de monde qu'on est capable de changer. Quatrièmement, si on ne veut pas de hiérarchie, il faut trouver comment s'écouter les uns les autres afin de mieux s'entendre. Cinquièmement, s'il n'y a pas de personne au-dessus, tout le monde peut résoudre les problèmes que nous vivons. Sixièmement, si on écoute les vécus, expériences, connaissances et pratiques qui sont partagées autour de nous, on peut expérimenter et faire mûrir des solutions qui font du bien. Ce dernier point vaut le coup d'être répété autrement. Oui, parfois, il y a des gens comme toi et moi qui font des trucs sans le pouvoir en place, malgré le pouvoir en place, et ça marche.
Vous venez d'entendre la voix de Sualtam qui faisait une lecture de l'article du Framablog « Il n'y a pas de solution, il n'y a que nous » qui avait été publié en avril 2020 sur le Framablog. Donc la lecture en entière est dispo sur framatube.org, c'est sous licence CC BY-SA. Alors Sualtam, quand il lit cet article, il nous dit voilà, « il n'y a que nous », alors c'est à nous, de là où on parle, de faire des choses, d'agir malgré les pouvoirs en place, etc. Alors nous, d'où on parle de l'UTC, hein, on parle de l'Université de Technologie de Compiègne, et puis c'est vrai qu'à l'UTC, on a une maxime que tout le monde connaît, c'est « donnons un sens à l'innovation ». Alors, est-ce qu'avec la low-technicisation, eh bien, on propose du coup de hacker cette maxime-là, et ça donnerait quelque chose comme « donnons un autre sens à l'innovation ».
Oui, alors l'idée, c'est pas de remettre en cause l'envie de créer des choses nouvelles, et surtout pas, on l'a dit, d'influer sur les modes de vie, parce que c'est ce que les ingénieurs font, hein. Il faut modifier les modes de vie à travers les techniques. Eh bien, c'est fondamentalement l'activité des ingénieurs. Mais donc la question que l'on peut effectivement se poser un peu plus peut-être que ce que l'on fait traditionnellement, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va le faire pour améliorer la vie des gens, le confort? Est-ce qu'on fait pour protéger nos écosystèmes, ou est-ce qu'on fait pour faire fonctionner une mécanique industrielle, rémunérer des actionnaires, ou d'ailleurs rémunérer des ingénieurs. Voilà, donc l'idée, c'est que, l'idée qu'on va essayer de défendre ici, c'est de voir comment on peut intégrer, en quelque sorte, à nos modes de réflexion, encore une fois, les objectifs premiers de soutenabilité, convivialité.
Et donc ça donnerait quoi, par exemple, à un ou une ingénieure qui hackerait cette maxime, enfin en tout cas qui serait un concepteur ou une conceptrice en low-technicisation et qui agirait sur la soutenabilité et la convivialité?
Alors ce sera plus facile de répondre dans quelques années quand on aura un petit peu plus de recul, mais on peut déjà considérer que, comme on l'a dit également avant, c'est d'abord un concepteur entre guillemets normal, une personne qui sait faire de la technique, qui a les mêmes compétences qu'un ingénieur classique high-tech, on va dire. Il maîtrise les mêmes outils, hein, donc un discours sur la technique, on va le voir également des techniques de prototypage, de maquettage, de calcul, d'argumentation. Mais donc, on va essayer de se doter d'outils en particulier méthodologiques pour questionner le sens, la direction des actions.
D'accord, donc tu parles d'une méthode pour le techniciser. Donc ça existe ça? Il y a une méthode qui existe a priori?
Alors écoute, on est en train d'essayer de construire des choses ensemble, hein, de notre côté à l'UTC, pas seulement moi, d'autres collègues, pas seulement toi, d'autres personnes également dans d'autres universités. Donc on échange un petit peu autour de tout ça. Encore une fois, l'idée c'est peut-être que d'ici quelques mois, années, on arrive à quelque chose d'un peu plus stabilisé. Mais oui, du coup, on a commencé à acheter quelques pistes. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, de la méthodo, et encore une fois pour montrer que c'est pas une initiative totalement isolée ou originale, on peut peut-être insister sur trois points. Alors d'abord, on a fait un des paris que l'on fait dans cette méthode, c'est de continuer à considérer l'industrialisation, considérer qu'une industrie, eh bien c'est utile, voire même nécessaire dans notre contexte pour généraliser les changements de direction, les gains que l'on envisage. Et donc on va poser que c'est la recherche de la croissance exponentielle qui est problématique et pas l'industrialisation en tant que telle. C'est quelque chose qui est discuté. En tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on fait. Alors dans la société civile, eh bien c'est des choses qui se développent aujourd'hui. On en sait quelque chose parce que l'association Picassoft, par exemple, fonctionne sur le bénévolat et donc propose bien des services qui relèvent de l'ingénierie, ou encore l'association Framasoft qui développe des logiciels, qui héberge des logiciels et sur un modèle qui est exclusivement celui du don. Alors évidemment, ce sont des modèles assez marginaux, mais ils existent néanmoins et donc ils sont des alternatives à la croissance économique. Il y a d'autres exemples un peu plus ancrés dans l'économie traditionnelle, on va dire, que sont les licornes avec deux O, qui s'appellent coopératives pour la transition. On peut en trouver la liste sur le site licornes2o.coop avec deux O encore. Des entreprises comme Fairphone, par exemple, ou Common W, ou Coop Circuit, la Nef, etc., qui ont donc des modèles économique, alternatif à ceux du capitalisme contemporain. Deuxième point, donc, on l'a dit, l'enjeu du changement de direction que l'on vise, c'est de remplacer la direction capitaliste. Donc, ça veut dire l'idée d'utiliser des capitaux et de rémunérer les détenteurs de ces capitaux à travers notamment un mécanisme de croissance. On va tenter de le remplacer par d'autres axes de valeur. Pareil, des exemples qui existent aujourd'hui, c'est par exemple l'atelier paysan. Qui est coopérative également, qui cherche à créer d'autres outils pour la paysannerie française, pour la production agricole. Alors dans le cadre de nos API, on va commencer à faire le lien avec nos séances précédentes d'API. On avait un projet qui s'appelait Fait du Repair et dont l'objectif, par exemple, était de favoriser les logiques de réparation, réutilisation plutôt que de rachat, ce qu'on trouve aussi par exemple avec les divers repair cafés qui s'ouvrent dans des tiers-lieux, par exemple, en France. Mais on voit qu'ici, il y a des modèles alternatifs qui sont à creuser, des modèles du don, de la location, on parle parfois d'économie de la fonctionnalité, etc. Troisième point sur lequel on va, qui paraît aussi assez important, c'est la logique de délibération. Parce que il faut quelqu'un qui décide en quelque sorte ce qui est low-tech et ce qui est pas low-tech, ce qui est utile et ce qui est pas utile. Quelqu'un qui décide, c'est pas facile. On est rarement d'accord. Donc à moins d'avoir un grand dictateur et de tous le saluer pour qu'il prenne les décisions pour nous, il va falloir plutôt qu'on prenne les décisions ensemble. Alors il y a eu un bon exemple, je trouve, de ça il y a quelques années maintenant, qui s'appelait la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un mécanisme de délibération, qui a produit un certain nombre de propositions assez intéressantes, pas forcément toutes extrêmement consensuelles, et bon, c'est un petit peu, on peut regretter que ça n'ait pas été plus suivi au niveau politique et institutionnalisé, mais on a un exemple, encore une fois, réel, de mode de délibération qui peut être... qui peut donner des résultats. Alors pareil, si on revient un petit peu sur nos projets l'ONU, mais bien il y en a un qui s'appelait LoVote, et donc qui cherchait à être un espace numérique pour permettre aux membres d'une organisation, par exemple une entreprise, une association, pourquoi pas une université, de proposer des changements au sein de l'organisation même, en lien encore une fois avec les objectifs l'ONU, et de pouvoir les discuter.
On vient d'écouter Optimism, ça vient de l'album All Faces par Minda Lacey, c'est sous licence CC by SA. Alors ok Stéphane, tu nous as présenté les principes, hein, trois grands principes qui sous-tendent donc cette méthode de l'autechnicisation, mais donc on a compris la base, et donc concrètement comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une méthode que les ingés peuvent appliquer, alors ingénieurs ou pas, mais quelle méthode peut-on appliquer? Est-ce que c'est en place tout ça?
Alors, hein, comme j'ai déjà dit, on prend pas mal de gants, hein, mais donc évidemment, on est en train d'expérimenter. On n'a pas aujourd'hui une réponse absolue. Bon, de toute façon, dans le domaine méthodologique, déjà, ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire ça. Mais disons que là, en plus, on n'a pas beaucoup de recul. Alors, la piste qu'on va adopter, elle n'est pas extrêmement originale. Eh bien, c'est de s'appuyer sur l'approche agile, qui est déjà, en fait, en quelque sorte, une méthode aujourd'hui relativement dominante dans le domaine du numérique. Donc, on va essayer de garder un peu les fondements de l'approche agile. Donc, je vais les présenter très rapidement. Et puis, de rediriger en quelque sorte, encore une fois, leurs objectifs. Alors, rappel très rapide, hein, de l'approche agile, l'idée c'est de s'appuyer sur la souplesse, l'itérativité, la communication. La souplesse, ça veut dire qu'on ne va pas partir dès le départ avec un cahier des charges, avec une spécification rigoureuse de ce que l'on veut obtenir à la fin. On va se doter évidemment du maximum d'informations initiales, mais on va s'autoriser tout au long du processus de conception à les rediscuter. Alors, pour négocier cette souplesse, on va avoir une logique d'itérativité, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte qu'on va construire étape par étape et de faire en sorte qu'à chaque étape, eh bien, on rajoute un petit bout complémentaire avec le précédent. Alors, encore une fois, j'ai dit que c'était valable surtout dans le domaine du numérique. Faut comprendre qu'évidemment, c'est plus facile de faire ça dans le domaine du numérique, de rajouter des petites briques au fur et à mesure. Dans le domaine du bâtiment, par exemple, on peut aussi rajouter des petites briques au fur et à mesure, mais il faut quand même être bien sûr de ses fondations avant de monter les murs. En informatique, on peut se permettre d'être parfois un peu plus souple vis-à-vis de ça. Et donc, troisième point, la communication, c'est que pour justement négocier les éléments et s'autoriser des changements de façon un petit peu dynamique, eh bien, on va essayer d'avoir des principes de communication assez forts entre les acteurs. Alors, on voit que ces trois principes, eh bien, ils sont à aucun moment en contradiction fondamentalement avec les objectifs que l'on vise. Au contraire, ils paraissent assez sains. Concrètement, c'est effectivement donc pouvoir remettre en cause certains présentation, remettre en cause les besoins et les fonctions. Tout ça, ça fait partie potentiellement des démarches agiles. Donc, on n'a pas de souci fondamental. En revanche, eh bien, ce qu'on peut remettre en cause à nouveau, ce sont les indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on a un projet numérique, eh bien, en général, on va avoir des indicateurs de type coût, délai, profit. C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire réduire les coûts de mon projet? Est-ce que je peux optimiser, améliorer les délais? Et puis, encore une fois, générer du profit pour les investisseurs, eh bien, on va essayer de jouer sur d'autres critères qui pourraient être, par exemple, impact à la place du coût, au sens de impact humain et environnemental, durabilité à la place de délai, donc sur le paramètre temps, peut-être moins se préoccuper du temps que met le projet à se réaliser, mais du temps qu'il va permettre aux objets que le projet permet de créer de vivre. Ma phrase n'était pas très correcte, mais je pense qu'on en a compris l'idée. Et puis, à la logique de profit, eh bien, opposer une logique d'appropriabilité, c'est-à-dire plutôt que de rémunérer les propriétaires du capital initial, et bien chercher à rémunérer en quelque sorte en usage l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc voilà, donc globalement, s'appuyer sur une logique de sobriété fonctionnelle, voir un petit peu comment réfléchir aussi à ne pas faire. On pourrait avoir un truc comme d'abord ne pas faire, qui serait une sorte de référence en ingénierie au d'abord ne pas nuire en médecine.
D'accord, mais enfin avec cette idée de d'abord ne pas faire ou réfléchir à ne pas faire, on va avoir un petit problème de modèle économique au niveau des entreprises, non ? Si on décide de moins faire, on va vendre quand même moins de journées de développement pour une entreprise d'informatique, c'est problématique, non ?
Oui, tout à fait. C'est à mon avis un des problèmes essentiels. Alors, j'ai cité tout à l'heure quelques modèles économiques alternatifs, comme par exemple celui de l'économie de la fonctionnalité qui va se baser sur l'allocation plutôt que le renouvellement des produits. Mais globalement, même si les économistes effectivement sont également en train de chercher des voies, eh bien, on voit que ça rentre un peu en contradiction avec notre modèle actuel. Il y a encore une fois, donc je disais, il y a des économistes qui réfléchissent là-dessus. J'ai rencontré aussi des gens du domaine de la comptabilité. On est toujours un peu dans le domaine de l'économie, mais dont un des enjeux, eh bien, serait justement d'être capable de mettre au bilan d'une entreprise au niveau comptable des éléments en lien avec l'impact environnemental. Donc c'est par exemple ce qui se fait à la chaire de comptabilité écologique d'AgroParisTech. J'ai eu la chance de rencontrer Harold Levrette sur ce sujet. Je fais une toute petite citation. En France, plusieurs textes réglementaires obligent déjà un certain nombre d'entreprises à établir dans leur rapport annuel une déclaration de performance extra-financière et de manière générale incite à une communication renforcée sur ces aspects. Donc ça veut dire que dans un bilan comptable, eh bien, en fait, on pourrait faire apparaître autre chose que simplement de l'actif et du passif financier, mais également, eh bien, pourquoi pas des actifs et des passifs environnementaux. Donc voilà un autre axe qui pourrait être exploré, mais en effet, Audrey, tu as raison, il va falloir explorer d'autres axes pour compenser en quelque sorte ou pour modifier un petit peu nos modes de fonctionnement actuels sur le mode de fonctionnement actuel des entreprises.
Les méthodes de gestion de projet traditionnelles, elles recherchent plutôt la stabilité. Et pour ça, elles figent l'organisation dans l'espace, dans le temps, quelle que soit l'évolution de l'environnement autour. Donc, elles cherchent à prévoir de manière à assurer le fait qu'il y ait un minimum d'aléas qui surviennent. Donc, elles sont super performantes quand l'environnement est lui-même stable ou qu'il est très prévisible. quand il y a quelques aléas qui surviennent par la suite, bah du coup, ils sont traités comme des problèmes dans le but de retrouver la stabilité escomptée au départ. Quand on est dans un environnement qui est instable, complexe et peu prévisible, bah du coup, la recherche de stabilité, elle devient contre-productive car tout devient problème. On passe l'essentiel de son énergie à essayer de prévoir l'imprévisible et à gérer des problèmes qui, de toute façon, vont survenir.
On vient d'entendre la voix de Valérie Moreau, c'était à propos de la gestion de l'imprévisible et de la complexité dans les méthodes classiques versus dans les méthodes agiles. C'était Valérie qui avait contribué à un cours émission en WE1 sur les méthodes agiles, un cours que l'on fait à l'UTC. C'est disponible sur aperi.tube, licence CC BY-SA. Alors, toujours sur les méthodes agiles, Stéphane, j'ai une question de Martin. Martin, qui dans le chat se demande à propos des méthodes agiles, donc il se dit qu'il a l'impression que ce type de méthode pousse, donc je cite Martin, pousse à réfléchir en fonctionnalité. Typiquement, on va proposer d'ajouter des fonctionnalités que l'on a pensées autre-temps. Et donc, du coup, on pourrait pousser à faire de l'ajout plutôt que du retrait. Comment combattre un biais vers le plus plutôt que vers le moins? Et donc, en effet, c'est vrai que les méthodes agiles, on les associe plutôt à une rhétorique de la croissance, de l'industrialisation, des start-up, etc. Donc, comment prendre en compte ce biais-là ou tout ce bagage-là?
Alors, je proposais une réponse en deux temps. D'abord, dans un premier temps, je pense qu'il y a une part d'imaginaire associé, c'est-à-dire que les méthodes agiles sont nées effectivement, on va dire, sont développées en même temps que les concepts de start-up, de croissance numérique, de virtualisation, de dématérialisation, etc. Donc cette idée à un moment qu'il existait une économie parallèle, etc. Enfin, tous ces mots, je les utilise à dessein, évidemment, là pour les critiquer. Donc tout ça, on sait bien que c'est, que c'était du discours pour accompagner une logique de croissance, mais c'est pas c'est pas parce qu'elles sont nées, les méthodes en tant que telles, dans ce contexte-là, donc pour alimenter une société high-tech et de la surcroissance, que fondamentalement, en fait, elles seraient en contradiction avec la convivialité ou la soutenabilité. Et donc, elles sont pas redirigeables. En tout cas, c'est encore une fois une hypothèse qui est faite. Et dans la présentation que j'ai faite au début, on voit qu'au principe même de ces méthodes, on trouve rien qui n'irait pas. Donc ça c'est premier point. Deuxième point également qui me paraît assez important, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une hypothèse qui est d'essayer de rester compatible avec l'industrialisation. Alors pas seulement parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, qu'on forme des ingénieurs et que sinon on perdrait notre boulot, même si probablement comme tout le monde, on est probablement un peu emprunt de ça aussi, une forme de recherche de continuité. Néanmoins, il y a aussi une logique derrière qui est que, si on se met à faire du réparation, du renouvelable, de l'appropriable, etc. Il faut aussi qu'on soit capable de le faire à grande échelle, tout simplement parce qu'on a des sociétés vastes et il y a aussi en quelque sorte une logique d'efficacité à rechercher dans le remplacement d'un certain nombre de techniques par d'autres. Donc c'est un débat qui est pas très simple, mais donc il y a cette logique de vouloir adresser un peu globalement les problèmes, sinon on risque de résoudre très bien, mais très localement des problèmes, donc d'avoir un impact global assez faible. On en avait aussi probablement déjà parlé, mais on a vu aussi que même des techniques qui peuvent paraître très low-tech, c'est un des exemples que Philippe Biwix prend souvent, comme le vélo, reposent sur des chaînes de production qui sont assez complexes. On parle pas ici je ne parle même pas des ordinateurs pour lesquels c'est absolument nécessaire. Néanmoins, dans un troisième point, je pense qu'effectivement il y a une vigilance particulière à apporter sur ces méthodes agiles, et notamment effectivement, comme l'a dit Martin, sur le principe d'itérativité, c'est-à-dire que il y a un principe qui consiste à accumuler petit à petit de nouvelles fonctions sur un objet. C'est connu notamment aujourd'hui en informatique aussi, parce que ces méthodes rendent difficile le fait d'épurer à un moment, d'enlever des fonctions devenues inutiles, puisque justement on est toujours dans une logique en quelque sorte de croissance fonctionnelle. Alors par rapport à ça, encore une fois, en théorie, la solution existe dans les méthodes agiles, puisqu'il suffit, avec des guillemets que vous voyez pas à la radio, peut-être vous avez entendu dans mon ton, d'avoir des tâches et en quelque sorte des fonctions qui consistent à enlever d'autres fonctions. Donc là, on peut se rapprocher d'un autre concept qu'on a peut-être esquissé la semaine dernière, de fermeture, qu'on avait emprunté à Alexandre Monin, c'est-à-dire que l'idée à un moment, ça peut être aussi, dans la méthode, de prévoir des tâches, des temps, de l'organisation, de l'investissement de moyens, mais dont l'objectif n'est pas d'ajouter des fonctions, mais au contraire d'en retrancher et donc d'enlever soit des parties de machines, soit des machines complètes, soit encore une fois, si on pense logiciel, des parties de logiciels ou des logiciels complets.
Ok, bah écoute, on va essayer de faire ça et de voir donc comment appliquer cela donc dans la méthode, dans une méthode qu'on vous propose, donc appliquée à la low-technicisation. On va voir ça en 5 étapes donc dans la seconde partie de notre émission, mais avant tout, on se fait une petite pause médicale. On va écouter Don't You Get It de Damien Ogorodov, c'est sous licence CC BY-SA.
There are times I get a feeling I'm all alone. Guess it's just them beer drinking women who make me so cold. Said, don't you get it? I said, I don't know. Then go alone. Told about them troubles in the city I came from. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Asking the clouds to stop the rain. We've been sitting here for a hell lot of hours. Words and wind. I said this place has been quiet so far. She said, let's make it louder. So we were dancing, we were shaking up the bar. The alcohol. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it?
C'était donc Tuguelet de Damien Ogorodov sous licence CC BY-SA. Alors on entame la deuxième partie de notre émission sur donc les 5 étapes de la méthode de low-technicisation. On va démarrer par la veille, s'en suivront l'idéation, le maquettage, l'évaluation et la publication. Alors c'est parti pour la première étape, la veille. Stéphane, en quoi ça consiste ?
Alors je vais vraiment donner quelques grandes généralités, hein, s'il y en a que ça intéresse d'approfondir, on a un module sur libre cours qui donne un petit peu plus de détails, mais en gros l'idée générale c'est de commencer par savoir où on est dans un domaine, et puis ça peut être aussi, hein, ce qui est pas, parfois on a une idée comme ça, on se dit ah, ce serait chouette de faire ça, du coup c'est intéressant de voir eh bien, où est-ce que, encore une fois, ce que les autres personnes ont pu penser autour de nous, avant, en ce moment, et parfois aussi c'est l'occasion de redécouvrir des choses qui par exemple des recherches techniques, des développements qui peuvent parfois d'ailleurs être assez avancés, qui sont passés sous les radars d'une façon générale du développement industriel. Alors c'est quelque chose qui est vrai en général, et peut-être que c'est encore plus vrai dans notre approche de l'eutechnicisation, puisqu'on pourrait avoir effectivement de bonnes idées qui n'ont pas été développées justement parce qu'elles ne rentraient pas dans la logique de développement économique traditionnel et qui pourraient à nouveau nous servir. Alors sur le comment on fait, c'est pas extrêmement simple de décrire ça à la radio, mais le plus simple évidemment quand on démarre dans un domaine, comme on a probablement l'habitude de le faire, c'est Wikipédia et puis une recherche web. Alors que dans une recherche web, hein, je rappelle, si on veut éviter les bulles de filtre, notamment quand on fait des nouvelles recherches, eh bien c'est mieux d'utiliser un moteur, par exemple comme DuckDuckGo, en tout cas un moteur qui ne personnalise pas, donc à la différence de Google, qui va plutôt avoir tendance à vous maintenir dans les recherches que vous êtes habitué à faire. Au fur et à mesure où on trouve des références bibliographiques, de les capitaliser correctement. Alors pour ça, il y a un outil qui fonctionne bien qui s'appelle Zotero. On peut partager les bibliographies que l'on crée, et donc c'est ce que l'on a commencé à faire sur l'onium.fr, si vous souhaitez regarder. Alors, assez rapidement, il est intéressant de s'intéresser à la littérature scientifique spécialisée. Ça se trouve parfois un peu moins bien avec le moteur de recherche classique, donc ça vaut le coup d'aller chercher, par exemple, commencer par un moteur spécialisé. Donc en ligne, il y en a un qui s'appelle Google Scholar, et puis il y a une alternative donc dégooglisée qui s'appelle Semantic Scholar. Donc ces deux outils permettent de trouver des références bibliographiques. On peut aussi, si vous avez accès à une bibliothèque universitaire comme à l'UTC, se rapprocher des bibliothécaires et des moteurs de recherche spécialisés. Alors une des difficultés quand on a trouvé un article scientifique, c'est que certains ne sont pas en libre accès, c'est-à-dire que pour les obtenir, on est obligé de les acheter. Alors encore une fois, si vous avez accès à une bibliothèque universitaire, c'est très bien. Sinon, il y a d'autres moyens, comme par exemple le site SciHub. Alors je précise que SciHub a été attaqué en justice par les grands éditeurs commerciaux, comme Elsevier par exemple, et donc c'est un site aujourd'hui illégal, même si on peut se poser la question de savoir s'il est moral ou pas.
C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Enfin Stéphane, c'est quoi ce vocabulaire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu es si en colère contre les auteurs de plagiat ?
Non, pas du tout. En plus, c'est pas le thème de l'émission, donc histoire de sans transition, comme on dit, je te propose de passer à quelques exemples d'états de l'art qui ont été présentés dans le cadre de projets précédents.
Ok, alors plus sérieusement, donc un exemple en effet d'un état de l'art qui avait été réalisé pour le projet Bibliobox, c'était par Anouk, Anthony, Mr. Floss et Marie. Ils avaient travaillé sur ce projet donc pendant la première session du LONUM Bibliobox. Donc c'est le pitch du projet, hein. L'idée c'était de relancer, de revisiter le principe des Bibliobox qui permettait de partager des contenus multimédia localement par un partage de Wi-Fi avec une approche multi-support et bien sûr une réflexion LONUM derrière. L'idée c'était de proposer une offre culturelle numérique, légal, libre, public, hélotechnicisé, que ce soit pour du streaming ou du téléchargement. Voilà, j'ai cité le livrable du projet que vous retrouverez sur l'onium.fr. Et donc, en effet, dans l'état de l'art, eh bien, il y a eu quelques trouvailles qui avaient aidé ce groupe-là à poursuivre leur projet, notamment donc, une archive du site bibliobox.net, c'est proche. Donc, ce dispositif nomade qui permettait d'accéder à des ressources numériques, une carte de Bibliobox, enfin voilà, tout plein de ressources, le site Piratebox, le site Library Box, enfin voilà, plusieurs ressources qui les ont aidés finalement à ensuite trouver de nouvelles idées pour poursuivre leur projet. Et donc en effet, une fois qu'on a fait l'état de l'art, eh bien on va essayer de faire foisonner tout plein d'idées à partir du sujet que l'on a choisi, et c'est l'étape d'idéation.
Oui, alors dans cette étape-là, hein, l'enjeu c'est de permettre encore une fois d'explorer de nouvelles pistes, donc que ce soit en termes, comme on l'a dit précédemment, d'optimisation, c'est-à-dire d'amélioration des performances techniques, d'imagination, c'est-à-dire d'exploration de modes de vie alternatifs, on va dire, de remise en cause des modes de vie, de discussion des modes de vie, et puis d'alerte, c'est-à-dire de reconfiguration d'un certain nombre d'objets afin qu'ils servent, par exemple, à interpeller les classes dirigeantes, dirons-nous, de négocier entre les citoyens, parfois juste de faire exemple, hein, le simple fait de montrer et de faire vivre des alternatives, eh bien une fonction d'alerte, c'est par exemple ce que l'on fait eh bien, dans le milieu associatif, hein, ne serait-ce que ce qu'on fait à Picassoft en montrant qu'un outil comme par exemple Mattermost, un outil qu'on utilise pour discuter ici dans de nombreux projets, eh bien peut être géré par des étudiants dans un cadre associatif, etc. Ça montre d'autres façons de s'organiser. Peut-être, Audrey, tu peux nous extraire un ou deux exemples d'idéations issues des projets précédents ?
Oui, en effet. Alors, comme second projet qui avait abouti lors de la première session du LONUM, on avait le projet HTTPS Law qui avait été mené par Celti, David, Sylvain et Thierry. Thierry qui est à présent co-animateur de la session 2 du LONUM. Alors, l'enjeu de ce projet-là, c'était de permettre à des utilisateurs de réclamer des ressources web plus simples, plus légères, plus facilement appropriables, c'est-à-dire concrètement de pouvoir naviguer sur le web de façon plus sobre, plus légère, donc pas de pub, pas de vidéo, une version audio à la place de vidéo si l'on souhaite, des images compressées, minimisées, enfin voilà, l'idée c'était de pouvoir permettre grâce à un protocole HTTP l'eau technicisée, eh bien de rendre la navigation sur le web un petit peu plus sobre. Et donc, dans l'idéation du projet HTTPS l'eau, il y avait plusieurs cartes mentales qui avaient été élaborées par les membres du projet. Donc, les cartes mentales, vous savez, on essaie de construire des arborescences entre différents concepts, à partir d'un concept. Et donc, ici, il y avait eu, par exemple, une première carte mentale pour essayer d'identifier les acteurs en jeu dans ce projet-là. Donc, il y a les acteurs humains, les personnes qui vont créer des pages web, qui vont simplement naviguer sur le web, les acteurs non humains, alors il y a des organisations, des machines, donc bref, identifier les acteurs de la communication sur le web, et puis aussi il y avait une carte mentale pour essayer d'identifier, d'avoir des idées à partir des interactions techniques dans ce contexte-là, donc des interactions techniques entre les navigateurs des utilisateurs et puis les serveurs web qui hébergent des pages web. Et donc là on était plutôt sur les leviers optimisés, les leviers de changement de mode de vie aussi. Et puis on avait sur sa carte mentale, on retrouvait par exemple comment établir certaines règles de production de contenu sobre sur le web, comment mettre en place des interfaces simplifiées, utiliser aussi des métriques du code HTML, ou en tout cas essayer de mesurer quel type de contenu sera publié sur le web, etc. Donc voilà, des cartes mentales, c'est un des outils de l'idéation. Et puis une fois qu'on est passé par cette étape-là, on va essayer de passer par le maquettage. Alors le maquettage, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on fait des maquettes en papier mâché ? À quoi ça consiste ?
Alors on peut, en effet, on peut les faire en papier mâché. Parfois, quand on a un ordinateur, c'est plus simple de le faire avec une souris. Mais effectivement, dans les étudiants qui ont travaillé sur les maquettes, parfois ils ont travaillé tout simplement avec du papier et du crayon. Alors malheureusement, c'est un peu comme tes cartes mentales, là, c'est pas ultra facile à présenter à la radio. Donc on a d'autres outils qu'on a rangés dans le maquettage, qu'on appelle la technique des petites histoires. L'idée est tout simplement d'inventer un ou deux petits personnages et de décrire, comme on le ferait dans un petit bout de roman, ce que font ces personnages, comment ils interagissent, afin de mettre en scène, en quelque sorte, la technologie que l'on vise. Donc ça force, au moment de la conception, à se poser quand même si on essaie de faire ça de façon assez réaliste, à se poser des vraies questions sur ce que font les personnages. Et du coup, ça permet aussi de les visualiser. Visualiser à la radio avec du texte. Audrey, c'est à toi de jouer.
Alors, vous pourrez visualiser sur lenum.fr aussi, aller retrouver toutes les histoires et tout ça, mais si on peut vous en faire quelques-unes à la radio, ça peut donner, par exemple, pour le projet Bibliobox, ça donne ça. Bob est bibliothécaire et depuis qu'Internet ne fonctionne plus H24, il a remis en service la Bibliobox qui traînait dans un placard. Chaque mois, il met à jour le contenu de sa Bibliobox avec la sélection du site bibliobox.fr et il imprime la fichette explicative et descriptive pour ses usagers et usagères. Musique, films, jeux, livres, chaque rayon de la bibliothèque trouve son prolongement dans la Bibliobox et c'est l'occasion de conseiller et d'échanger avec les habitués. Une autre petite histoire éventuellement, Charlotte créatrice soumet sa création vidéo hebdo sous licence libre et disponible sur un pad hébergé par un chaton au Bibliobox. Quand son œuvre n'est pas sélectionnée dans l'immédiat pour le paquet préficelé du site, elle peut toujours être ajoutée à la Bibliobox de son quartier, gérée par l'asso qu'elle a montée. Voilà, donc des situations pour se projeter dans l'usage de l'outil sur lequel on travaille, c'est bien l'idée du maquettage, ouais.
On a commencé par consulter la littérature scientifique et on est tombé essentiellement sur des ressources qui étudiaient la consommation énergétique des centres de calcul. Et de ces consultations, on a compris que l'influence des choix de logiciels pouvait avoir un impact significatif sur la performance énergétique d'un système et qu'en plus, il se trouve que ça peut être corrélé à la complexité du système en soi. Donc ça, c'est une dimension qui nous intéresse, notamment dans l'approche convivialiste, à savoir essayer de réduire cette complexité pour identifier des systèmes qui soient maîtrisables avec des ressources limitées.
C'était la voix de Thomas Bernard, qui était donc membre du projet Oslo et qui racontait un petit peu le parcours, tout le cheminement qu'ils avaient effectué avec leur groupe sur le projet Oslo.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les outils qu'on a commencé à bricoler. En plus, on va continuer ces travaux là-dessus. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas tout seul à travailler là-dessus. Vraiment pas très loin de chez nous. Il y a notre collègue Nicolas Salzman, dans le cadre du projet Sushi, qui travaille avec les étudiants de UTEC, des outils méthodo qui vont un peu dans le même sens, là, chercher à évaluer, choisir, délibérer sur les techniques. Donc, je le cite parce qu'on va très certainement collaborer ensemble et également pour montrer effectivement que c'est n'est pas une initiative isolée que la nôtre.
Et donc, dans l'initiative qui n'est pas isolée, qui est la nôtre, eh bien, on va donc poser des idées, on va maqueter, on va élaguer, tu le disais aussi, hein, enlever des fonctions, etc. Bref, on réfléchit, on tourne ça dans tous les sens, mais à la fin, qu'est-ce qui prouve qu'on a bien l'eau technicisée avec notre projet ? Est-ce qu'on est sûr qu'on va dans le bon sens, hein, de la soutenabilité, de la convivialité ? Enfin, est-ce qu'on n'est pas, finalement, est-ce qu'on ne tombe pas dans le fameux piège du greenwashing ?
Alors, est-ce qu'on est sûr ? Qu'est-ce qui prouve, etc. Tout ça, effectivement, c'est des questions très difficiles. On va pouvoir, si on est honnête, toujours dire qu'on n'est pas sûr. Donc, d'où l'idée, hein, effectivement, de s'entourer d'outils méthodologiques pour se cadrer, se recadrer, se forcer, en quelque sorte, à un autocadrage. Mais tu l'as dit, hein, effectivement, un risque, en quelque sorte, c'est celui du greenwashing. Alors, le greenwashing, faut pas voir ça comme juste un moment... Enfin, le terme peut être utilisé dans plusieurs sens, mais il y a vraiment une tendance du greenwashing qui est vraiment néfaste, c'est-à-dire que c'est pas juste à un moment le fait qu'on n'a pas bien pris en compte tous les paramètres, etc., que ce serait pas assez systémique, par exemple, ou ce genre de choses, c'est vraiment la volonté, à un moment consciente, de masquer le fait que l'on continue à avoir des effets délétères explicites et connus sur les impacts humains et ou environnementaux, et en les masquant derrière, effectivement, un travail, de la mise en avant d'un gain qui est marginal par ailleurs. Donc ça peut être effectivement utiliser un emballage plastique plus léger pour des bouteilles d'eau, ça permet de ne pas remettre en cause la bouteille d'eau, la question du réseau d'eau, la pollution des eaux, la question de l'utilisation d'eau propre pour les toilettes par exemple, etc. etc.
Ah, donc c'est assez difficile finalement, parce que ce genre d'action, on peut le faire tout à fait de bonne foi en pensant vraiment agir justement pour réduire l'impact environnemental de nos actions. Mais tout ça, donc on peut le faire sans s'en rendre compte, le greenwashing, c'est comment on fait pour savoir ?
Ouais, alors effectivement, donc si on évacue le premier cas, mais je tenais quand même à citer, où on fait exprès en quelque sorte, dans ce cas-là, évidemment, on va pas avoir des outils méthodaux pour s'en défaire puisqu'on le fait exprès. Mais effectivement, comme tu le dis, on peut aussi, entre guillemets, ne pas le faire exprès à un moment. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on va voir là, c'est-à-dire qu'une des idées, ça va être d'essayer de chercher comment on peut se doter d'outils méthodaux pour voir si ce qu'on fait, un peu malgré nous, comme tu l'as dit, de bonne foi, et pas quand même finalement du greenwashing. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut bricoler un petit peu ça.
Maintenant, on sait à quoi on sert. On vient d'écouter Drôle de cadence, ça vient de l'album Swings Not Dead par Zincaro, c'est sous licence CC BY-SA. Alors on a compris donc en quoi consistait ce piège du greenwashing, et donc pour éviter cela, on va essayer donc d'évaluer nos propres idées, de revenir dessus, et c'est l'objet de la phase suivante.
Oui, alors c'est pas que le greenwashing, hein. En effet, ça va être un peu tous les pièges. Alors, tous ceux qu'on a identifiés, on verra qu'il y en a quand même pas mal. Donc sur le greenwashing, je vais pas repasser plus de temps, hein. Peut-être juste mentionner que la semaine prochaine, donc on va accueillir Benjamin Lucier qui va nous parler des questions d'une façon générale des enjeux de soutenabilité et du numérique dans le domaine de l'informatique. Et donc il abordera notamment les péchés du greenwashing, et donc il nous en donnera une liste un peu plus détaillée. Donc on l'a vu, l'enjeu va pas être de s'attaquer que au greenwashing. On va essayer de mettre en place une méthode d'évaluation dite a priori qualitative et réflexive. Donc a priori, puisqu'on va la faire avant de créer les produits, hein, dans le cadre du LONUM, en vrai, on construit pas les choses pour de vrai. On fait, encore une fois, on s'arrête à l'étape du maquettage. Qualitative, eh bien, parce que comme on est a priori et qu'on n'a pas encore les objets, il est extrêmement difficile de faire des mesures. Donc on va essentiellement faire du qualitatif et non pas du quantitatif. Et puis réflexive, eh bien, parce qu'on va en quelque sorte s'évaluer soi-même. C'est-à-dire qu'on est soi-même en train d'évaluer son propre travail. Alors bien sûr, hein, il ne s'agit pas de considérer que c'est suffisant, c'est une étape que l'on propose dans le processus de conception, mais il faudra également du quantitatif. Alors par exemple, eh bien, il y a une technique qui s'appelle l'analyse de cycle de vie qui est enseignée à l'UTC dans une UV qui s'appelle IS02 par notamment notre collègue Yacine Baouche. C'est abordé également dans d'autres contextes, hein, à l'UTC. Donc le quantitatif, du coup, de la posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on a construit quelque chose, même si c'est difficile, eh bien encore l'évaluer et peut-être se rendre compte qu'on s'est trompé. Et puis évidemment, l'évaluation par des tiers, on n'est pas toujours les mieux placés pour s'évaluer soi-même.
Et donc, comme tu le disais, on utilise plusieurs grilles, on s'appuie sur plusieurs grilles pour réaliser ces trois types d'évaluations-là. Donc, on ne s'attaque pas que au greenwashing. Tu avais abordé lors de la première émission ce que tu as appelé les effets rebonds, ce qu'on appelle l'effet rebond. Est-ce que tu veux bien nous rappeler ce que ça veut dire ?
Oui, alors l'effet rebond, on l'appelle aussi parfois paradoxe de Jevons, parce qu'il a été mis en évidence donc par ce monsieur Jevons, en 65. Alors du coup, en fait, en 1865, hein, donc c'est pas un truc tout nouveau, lui, il l'a mis en évidence dans le cadre de la machine à vapeur. Il a montré que les gains d'optimisation, enfin il a anticipé, hein, et observé et anticipé que les gains d'optimisation, le fait que la machine tourne techniquement mieux, donc eh bien logiquement elle devrait consommer moins de charbon, eh bien en fait il a observé que ces gains sont réinvesti en croissance fonctionnelle et en croissance d'usage. Donc la machine est plus efficace, mais eh bien on va chercher à la faire aller plus vite, à lui faire porter plus lourd. On va avoir plus de machines, etc., etc. Alors ça a des conséquences, hein. Par exemple, l'usage de charbon, eh bien en fait, il n'a jamais cessé de croître. C'est-à-dire même si on a créé d'autres énergies et qu'évidemment les machines à vapeur sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui qu'avant, eh bien on consomme quand même plus de charbon. Alors on a beaucoup d'exemples comme ça, hein, dans le domaine de l'automobile. On sait qu'une voiture de 2022 consomme à peu près autant, hein, qu'une de chevaux de 1952. Donc 70 ans après, on n'a pas réduit la consommation effective des automobiles. Et en plus, on a augmenté la taille du parc au niveau mondial. Voilà, donc c'est un autre exemple. Hein. Bien sûr, hein, qu'une voiture moderne est plus efficace qu'une de chevaux, mais de fait, elle consomme autant de carburant. Dans le numérique, on pourra en parler longtemps, hein, mais on sait que la croissance, l'augmentation de la puissance est exponentielle. Hein. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi de Moore, même si évidemment c'est pas une loi de la physique, qui montre qu'on a à peu près une multiplication par deux des performances tous les 1 an et demi, depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Donc on devrait imaginer qu'on a largement assez de puissance informatique pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, hein, si on parle de besoin. Eh bien en fait non, probablement pas, puisqu'on a aussi une croissance exponentielle du nombre d'ordinateurs et de leur usage. Donc on optimise les ordinateurs, mais ça conduit à plus d'ordinateurs, plus de consommation de matériaux, plus de consommation d'énergie, et pas du tout à moins. Bref, donc c'est un phénomène, ça va le coup de s'arrêter un tout petit peu, c'est quand même un phénomène assez contre-intuitif. On a toujours l'impression, et c'est d'ailleurs souvent un argument des ingénieurs, qu'en optimisant, on va obtenir une réduction d'énergie ou de consommation de matériaux, ben on observe, entre guillemets, dans la vraie vie, que ben en fait ça se produit pas, quoi. Donc une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper un peu ça.
Et donc, on va aussi utiliser ce qu'on appelle le code éthique et puis la matrice SWOT, donc S-W-O-T pour Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats, pour force, donc faiblesse, opportunité et menace. Comment est-ce qu'on utilise ces outils-là dans le cadre de la méthodologie de l'ONU ?
Ouais, donc ça, c'est des outils qui sont assez classiques, hein, des outils qui sont assez classiques dans plusieurs méthodologies. L'enjeu, c'est d'essayer de voir en quoi on est en contradiction avec, par exemple, les objectifs économiques de l'entreprise ou du cadre dans lequel on intervient. Hein. Si on a rebondi un peu sur ce qu'on disait avant, rebondir sur l'effet rebond, pardon, du mauvais jeu de mots. Mais donc, si à un moment, on veut éviter un effet rebond et donc un effet de croissance, mais qu'on est un vendeur de matériel informatique, si on réussit notre objectif de diminuer la croissance de la consommation des ordinateurs, quelque part, on est en contradiction avec les objectifs économiques de l'entreprise. Si c'est une entreprise, encore une fois, qui fonctionne fondamentalement sur la croissance. Alors, l'idée, c'est pas forcément de trancher a priori sur ces différents paramètres, mais au moins, encore une fois, de les mettre en évidence pour avoir au moins l'occasion d'en discuter de façon un peu objective et rationnelle.
D'accord. Et donc, tu nous as parlé donc d'évaluation qualitative, mais malgré le fait qu'on insiste là-dessus, il ne faut pas oublier la mesure quantitative. En quoi est-ce que ça se traduit, ce fait de traiter ça ?
Alors l'idée, hein, comme on l'a dit, on peut rarement faire des vraies mesures, mais on peut essayer de faire des évaluations quantitatives, au moins en ordre de grandeur. Par exemple, se demander, il y avait un projet qui s'appelait Sémaphore, dont un des objectifs était de se poser les questions de l'accès à Internet dans des lieux mal connectés. Quand on dit mal connecté, ça vaut le coup de le dimensionner un petit peu quand même. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une intermittence de la connexion ? Si oui, combien d'heures par jour, par semaine, par mois, on espère être connecté ? Quand on espère être connecté, quel est le débit que l'on peut estimer, etc., etc. Ces ordres de grandeur sont importants parce qu'évidemment, quand on a dit mal connecté ou intermittence, on n'a rien dit. Hein. Si on a juste des coupures de quelques secondes par jour sur un très haut débit, c'est pas du tout la même chose que si on imagine, une heure de disponibilité par semaine sur un débit assez faible. Donc ça vaut le coup d'essayer comme ça d'anticiper un petit peu des ordres de grandeur pour dimensionner nos projets.
D'accord. Et donc ensuite, il y a donc cette étape d'évaluation réflexive. Donc pour l'évaluation réflexive, quand on entame cette étape-là, est-ce qu'on part de rien ? C'est-à-dire on revient sur notre projet ou est-ce qu'on a des concepts, des méthodes, quelque chose sur lequel s'appuyer pour commencer au moins cette évaluation réflexive ?
Alors, une des pistes qu'on va essayer de creuser, et je fais le lien avec une autre court émission qui aura dans 2 semaines. Alors, je crois qu'on n'aura pas à nouveau la chance de recevoir Guillaume Carnino, mais du coup, on réécoutera l'intervention qu'il a faite dans la précédente session l'ONUM. On verra un petit peu comment on discute autour. Mais il nous a présenté un concept dont on s'est emparé qui s'appelle l'empreinte fantôme. L'idée, c'est de chercher en quelque sorte les liens, de se forcer à chercher les liens que tisse la technique sur laquelle on est en train de travailler avec le reste du monde. Pour le faire de façon un petit peu brutale, quand on achète et on utilise un smartphone, on utilise des métaux qui sont extraits par des enfants en Asie, qui sont extraits par des enfants, par exemple, en Afrique, qui sont assemblés par des ouvriers en Asie. On utilise des logiciels qui sont construits aux États-Unis, qui collectent nos données. Tout ça, en quelque sorte, c'est très peu visible. Mais pour autant, c'est pas du tout ni matériel ni virtuel, c'est absolument matériel, c'est des vraies personnes qui travaillent sur des vrais métaux et des vraies données qui produisent des vrais effets sur le monde. Et donc un des enjeux, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre plus explicite tous ces paramètres pour en quelque sorte nous aider à changer nos pratiques. On voit bien que la plupart des êtres humains sont pas des monstres, s'ils se rendent compte de ce que produisent leurs comportements, encore une fois en termes d'achat, d'usage, etc., ça peut peut-être les amener à modifier un petit peu ses comportements.
Et donc en effet, on peut se servir de ce concept efficace d'empreinte fantôme pour effectuer son évaluation réflexive quand on participe au l'ONU. Mais donc cette étape-là, ça a permis, alors je pense notamment au projet Oslo qu'on a mentionné tout à l'heure, ça peut permettre de complètement revenir, de rediriger son sujet, quitte à le reformuler complètement. Alors complètement, vous allez en juger par vous-même, mais Oslo donc c'était un projet mené par Thomas dont vous avez entendu la voix tout à l'heure. Je dis qu'à elle, Arthur et Alexandre. L'idée de départ c'était de concevoir un OS, un système d'exploitation, hein, c'est le logiciel de base qui permet de faire fonctionner un ordinateur, que ce soit sur PC, sur téléphone ou autre, sur un terminal, bref. Donc l'idée, c'était de concevoir un système d'exploitation minimaliste qui pourrait fonctionner sur d'anciens ordinateurs, d'anciens smartphones. Donc l'idée derrière cela, c'est de prolonger la durée de vie en bonne santé de ces appareils, de recycler d'anciennes machines, en leur permettant donc de pouvoir supporter un système d'exploitation léger, peu gourmand en ressources et fonctionnel. Et donc, à partir de cette idée, alors le groupe a mené donc toutes les étapes de veille, d'idéation, de maquettage, et puis ils ont abattu un travail conséquent sur justement ces étapes d'évaluation réflexive. Ils ont détaillé toute leur évaluation sur différents types d'OS qu'ils ont voulu tester, mettre à l'épreuve, et puis ils ont décidé de s'appuyer sur les critères de convivialité qui ont été établis donc par l'international convivialiste dans le second manifeste convivialiste. Tout ça s'est fait à partir des travaux d'Illich. Il y a 6 critères, hein, la compatibilité avec la sphère du vivant, non-éviction, non-capture, autonomie de l'utilisateur, accessibilité matérielle et cognitive, sobriété. Bref, à partir de ces critères-là, le groupe a réévalué tout son sujet. Et puis, ils ont décidé finalement de reformuler leur sujet pour décider qu'OSLO devait finalement ne pas être la prescription d'un seul système d'exploitation, mais une plateforme distribuée qui permettrait d'organiser les ressources et les savoirs nécessaires pour la sélection et la mise en œuvre de systèmes d'exploitation adaptés aux ressources matérielles disponibles et aux besoins identifiés, donc finalement de davantage laisser le choix.
Pour être qualifiée d'appropriable, une technique doit être facile d'accès et d'usage. L'utilisateur doit aussi pouvoir comprendre son fonctionnement, la manipuler et la transformer pour l'adapter à ses besoins propres. Lorsqu'on parle d'une technologie complexe, et particulièrement dans le cas du numérique, l'appropriabilité est aussi d'ordre politique. Les utilisateurs doivent avoir un droit de regard sur la façon dont cette technique est produite et régulée, et un pouvoir d'action.
Vous venez d'entendre la voix de Gabrielle Van de Wiefer, qui était étudiante en WE1, donc le cours Écrire sur le web que l'on donne à l'UTC, lors de l'émission Wikipédia, un exemple pour penser la low-technicisation sur le web, en décembre 2021. Elle nous parlait d'appropriabilité. Vous retrouverez la vidéo en entier sur aperi.tube sous licence CC BY-SA. Alors, on arrive à la fin de notre émission et on va terminer par l'étape qui conclut les projets de low-technicisation, c'est l'étape de publication.
Oui, l'idée, c'est de faire en sorte que les projets sur lesquels on travaille soient exposés. Alors, on va dire exposés aux deux sens du terme, c'est-à-dire au sens artistique, au sens d'exposer ce que l'on produit, pour se forcer nous-mêmes à une certaine mise en forme de nos idées qui soient dirigées vers les autres. À se donner, en quelque sorte, s'obliger à expliquer, à partager et aussi, évidemment, inspirer. Mais aussi s'exposer au sens scientifique, c'est-à-dire de s'exposer à la critique, bien sûr, en considérant que c'est un processus d'élaboration dans lequel on va pouvoir confronter ses idées aux idées de l'autre. L'idée générale, on l'a vu, mais c'est que la low-technicisation s'inscrive dans un processus de délibération entre les humains, que l'on tombe ni d'un certain côté dans une sorte d'idéologie qui fixerait a priori, encore une fois, les besoins et les nécessités des autres, ni bien sûr dans peut-être le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que la question des besoins ne se discute même pas, puisque elle est principalement produite. Enfin, les besoins sont principalement aujourd'hui produits et construits par le système industriel et de la publicité. Alors nous, notre petite participation à ça, on le trouve sur l'onum.fr. Donc là, on expose une partie des travaux qui ont été réalisés avec bien sûr l'accord des participants. Un autre espace sur lequel on essaye de s'exposer un peu, c'est le média social Mastodon, qui est donc une sorte d'alternative à Twitter, qui rencontre d'ailleurs un petit peu de succès en ce moment grâce à l'actualité. Et là, on essaye d'y présenter les travaux, d'y partager les travaux au fur et à mesure, et puis également de générer des débats, des discussions. Voilà, donc le dernier point, c'est qu'on force, en quelque sorte, on incite fortement, on force les participants à aller jusqu'à une étape d'exposition de leur travail, de publication de leurs travaux.
à des personnes donc, qui ne font pas partie de la formation non plus. Donc c'est vrai que si vous avez un compte Mastodon, n'hésitez pas à suivre le tag l'ONUM et puis le tag débat l'ONUM aussi. Enfin, vous verrez qu'on discute pas mal, donc, comme vient de l'expliquer Stéphane, avec les participants sur Mastodon. Voilà, et bien écoutez, on arrive au terme de notre émission. On va se retrouver donc lundi prochain à la même heure sur Graphite et puis en live sur tube.picassoft.net pour cette fois-ci un court émission sur l'informatique et la soutenabilité. Ce sera avec Benjamin Lucier. Et puis voilà, d'ici là, on va rester en contact sur Mattermost et sur Mastodon et Peertube, donc en suivant le tag l'ONUM si vous le souhaitez. Et puis on va se quitter en écoutant un extrait de une chanson en entier de Totem Culturel par Jean Bleu. Ça vient de l'album Mammouth Punk. C'est sous licence et c'est Bayessa. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Modes pour effacer les antipodes.